Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Alléluia. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes béni d'être ici? Moi, je suis béni d'être dans la maison de Dieu ce matin. C'est une grande joie pour moi. Deux annonces spéciales à vous présenter ce matin. Vendredi après-midi, je vais quitter pour Tunis, pour la Tunisie. Et à la lumière de l'actualité, de la révolution qu'il y a eu, le gouvernement qui est tombé là-bas, nous avons prié, on ne savait plus si je devais y aller, tout ça, mais les choses se calment. Il y a encore de l'insécurité dans certains quartiers. Mais on a vraiment une paix de Dieu et je vais aller là-bas pour tout le week-end. Et Dieu organise les choses de façon vraiment particulière, j'en suis convaincu. Ce voyage est prévu depuis à peu près 8 mois déjà. Et qui savait, qui aurait pu prévoir que quelques semaines avant ce voyage, le gouvernement qui est en place tomberait comme ça. Et la Tunisie est un pays... se dit, je pense, d'une certaine laïcité, mais les chrétiens sont très brimés, les chrétiens sont très, très, très limités dans leur foi, la police, même on m'a averti, quand tu vas prêcher, la police va venir t'écouter, il y a une église officielle, et il y a aussi l'église des natifs, l'église des Tunisiens, qui est une église un peu plus souterraine, un peu plus underground, et on m'a dit, tu pourras même pas prêcher à ces gens-là, parce qu'il y a un risque, tout ça, pour eux, peut-être pas pour toi, mais surtout pour eux, et... quand tout est tombé, et même avant que tout tombe, eh bien, on avait fait des démarches auprès de l'État pour amener de la littérature là-bas. Et là, tout est tombé, et le pasteur, même, on a vu ça aux infos, plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà vu, aux informations, des journaux se vendent maintenant sur les places, tout rentre, la littérature, les DVD, la musique, de tout. Et je pense qu'il y a un rendez-vous particulier, l'Église, les nations bougent, mais l'Église est appelée à être au rendez-vous, à être là, à répondre. Et les chrétiens là-bas, les pasteurs, les serviteurs ont très, très peu de ressources. Et vendredi soir, si vous étiez parmi nous, l'église était presque pleine. Hein? Les deux rangs du milieu étaient presque pleins jusque derrière de tous les bénévoles de Nouvel Espoir. Il y avait le pasteur Freddy Nzambe, qui est l'un des pasteurs de la seule église protestante reconnue par l'État là-bas. Il est ici pour une formation en théologie. Il est accompagné aussi du pasteur Laurent dans cette formation, et on discutait ensemble, et on a eu à cœur, et on va faire un pas de foi. Alors que je vais y aller, je vais amener le minimum de vêtements possible. Alors, je vais voyager comme un homme, pas comme une femme. Hein? Très, très léger, très peu de trucs dans mes valises, et on veut amener de la littérature chrétienne. Et on a discuté ensemble, les pasteurs là-bas ont besoin de concordances, ont besoin de dictionnaires bibliques, ils ont besoin des ouvrages, et nous savons que cette église est très généreuse. Vous avez été extrêmement généreuse à tous les niveaux. On a des dizaines et dizaines et dizaines de témoignages à droite et à gauche de générosité de chrétiens entre vous. Aussi, face à Nouvel Espoir, c'était touchant de voir tous les gens qui se donnent. L'association est en pleine expansion. C'est grâce à votre générosité. Il n'y a aucune pression sur vous ce matin, mais je pense que nous avons un rendez-vous avec le destin. C'est une église en qui nous avons confiance. Le pasteur est ici et nous voulons vous inviter. Si le Seigneur peut toucher votre cœur de faire un geste ou une promesse de don, parce que ça va se faire très, très vite. Mais sur les dons que nous allons recueillir, nous allons acheter de la littérature chrétienne. On va acheter des Bibles, on va acheter des dictionnaires bibliques, on va acheter des concordances, on va acheter du matériel pour encourager les chrétiens dans leur foi. Certains d'entre nous avons 2, 3, 4, 5 Bibles à la maison. Et il y a des chrétiens juste là-bas qui, parfois, n'ont même pas une Bible pour leur famille. On va faire quelque chose pour eux. Ce sont des moments, l'Église est appelée à vivre, surtout pour le royaume de Dieu. Certains d'entre vous, c'est peut-être un chemisier de moins dans votre budget. D'autres, c'est peut-être un McDo de moins. Je sais pas. Mais si on peut faire un sacrifice pour penser, par amour, pour nos frères et sœurs, tout ce qui va être donné va être réinvesti à 100% pour les aider là-bas. Il n'y aura aucun frais d'administration, tout ça. On va vraiment tout mettre. Et si vous avez des amis, vous connaissez, même on a pensé appeler des églises, tout ça, Il y a un temps là. Et puis, je pense que, alors que le gouvernement est en train de se réorganiser, il est possible que la porte se ferme. Certains observateurs craignent que des partis islamistes ou des partis un peu plus de rigueur islamiste puissent influencer certaines lois, même si la Tunisie n'est pas du tout l'Égypte. Mais je pense que l'Église, il y a des fenêtres parfois que Dieu ouvre. Il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église réponde. Et nous voulons répondre tous ensemble. Les pasteurs, on s'est concertés. Nous allons faire un geste aussi personnellement. Mais on encourage l'Église, si vous voulez vous joindre à nous. Il y a déjà quelques personnes qui nous ont dit que si vous avez un Facebook, servez-vous de Facebook pour Jésus. Amen. Tournez-vous à quelqu'un ce matin et dites-lui, arrête de mettre des photos de personnel de tes vacances sur Facebook. Et dis à tes amis de nous aider à aider les chrétiens en Tunisie. Amen. Hallelujah. Tournez avec moi sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, chapitre 19. Chapitre 19. Pasteur Fabien me mentionne, pour les dons, si vous voulez donner quelque chose, il y a un tronc derrière au mur que vous pouvez déposer. Certains d'entre vous voudraient vous concerter hein, avec votre épouse, votre mari, voir qu'est-ce qu'on peut donner, tout ça. Vous pouvez au moins écrire une promesse. D'ici quelques jours, là, disons mardi ou plus tard, vous pouvez appeler l'église, le secrétariat ici, le secrétaire au téléphone. Vous pouvez nous dire ou par email ce que le Seigneur met sur votre cœur. Et après, nous, on va avancer, même si, sur les promesses, on va faire ce qu'il faut. On va aller acheter ces choses-là. On a des contacts aussi, pasteur Laurent, des contacts avec des maisons d'édition. On va essayer d'avoir des prix pas chers pour vraiment encourager nos frères et nos sœurs là-bas. Mardi prochain, ces maisons de prière, c'était une joie, c'était extraordinaire. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il faut les vivre. Il y a des choses, on ne peut pas en parler, il fallait être là. Si vous ne pouvez pas être avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vivre une maison de prière à la maison, mais si vous avez été avec nous, on a vécu des moments vraiment bénis dans la maison de Dieu. On est sortis de là, on se sentait... moi, je planais, comme disent les jeunes. Je suis parti à la maison, j'étais béni, j'étais dans une joie, j'étais dans une paix. Le Seigneur a dit que sa maison sera appelée une maison de prière. L'église, ça doit être un endroit où les chrétiens se lèvent pour prier, chercher la face de Dieu. On a eu des moments vraiment bénissants. On a eu déjà plusieurs témoignages de gens qui sont venus nous dire à quel point le Seigneur a touché leur cœur alors qu'ils priaient pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur les a touchés, eux. Une jeune fille même qui était là, c'est merveilleux de voir des jeunes. Une jeune fille a dit à sa maman, elle a dit, « Maman, je suis tellement boostée, j'ai l'impression que j'ai ce sentiment qu'il faudrait que j'arrive encore plus tôt mardi prochain. Il faudrait arriver encore plus tôt. » Et ça, c'est merveilleux. On a lancé des cartes de prière. Elles sont à votre disposition. Il y a un petit présentoir qui est là derrière. Et il y a un petit box, une petite boîte. Vous pouvez écrire des requêtes de prière. Vous connaissez des gens qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de prière, vous pouvez, on a imprimé plusieurs centaines, pour pas dire des milliers de copies, vous pouvez en ramener dans votre sac à main, c'est gratuit, vous en prenez quelques-unes, vous êtes au travail, quelqu'un va pas, un collègue, vous pouvez dire, moi je suis chrétien, j'ai la foi, je crois en Dieu, et mon Dieu répond aux prières, et on va prier pour toi, t'écris, la personne peut rester anonyme, on peut écrire la requête de prière, et nous allons prier pour toutes les requêtes de prière, c'est pas un coup de dé, c'est pas qu'on envoie des petits avions de papier, pied vers le ciel, on croit que Dieu répond aux prières. Et on l'a déjà vu, nous croyons pour les requêtes qu'on a présentées, que Dieu met sa main à travers cela. Le titre de mon message ce matin est celui-ci, et nous allons prier maintenant, la voix de Dieu et le cœur de l'homme. Seigneur Jésus, nous venons maintenant vers toi, Seigneur, car tu es vivant, Seigneur Jésus. Hallelujah. Tu vis dans nos cœurs à tout jamais. Dieu, tu es vivant. Tu nous aimes, tu veux toucher nos vies, tu veux te révéler. Tu aimes chaque homme, chaque femme, chaque jeune et moins jeune qui est ici dans ce lieu. Peu importe son arrière-plan, peu importe son vécu, peu importe ses regrets, ses remords, sa honte, Seigneur. Peu importe les erreurs, peu importe les blessures du passé, Seigneur. Tu veux nous toucher, tu veux nous relever, Seigneur, et tu veux nous mettre en avant. Hallelujah. Tu as un avenir pour nous, Seigneur. Nous voyons les nations autour de nous qui s'inquiètent, qui s'agitent, Seigneur. Nous voyons l'économie ébranlée plus que jamais, Seigneur. On a entendu des promesses le soupir du Français qui voulait avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et 2, 3, 4 ans plus tard, le pouvoir d'achat est à son plus bas comme on n'a jamais vu. Seigneur Jésus, dans tout ça, il y a une place pour toi, Seigneur. Tu veux parler, Seigneur. Tu aimes tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit à Daniel, il y a encore une vision pour les temps à venir. Il y a encore une parole. Tu as dit à Daniel, il y a encore une parole pour les temps qui viennent. Et Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin. Et j'étais porté, Seigneur, mais aussi portant dans mon cœur cette révélation qui brûle mon cœur ce matin, Seigneur. À quel point c'est si simple, mais à quel point tu nous aimes. Et tu veux marcher avec nous, Seigneur. Tu as une opinion. Tu veux nous conseiller à chaque pas, Seigneur. Tu veux marcher avec nous. Tu veux faire entendre ta voix, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous venons vers toi ce matin. Donne-moi l'acuité nécessaire, la liberté d'esprit, Seigneur. Donne-moi d'exprimer librement, Seigneur, justement et clairement, cette pensée que tu as déposée dans mon cœur. Quelle grande responsabilité, Seigneur, de nous tenir et d'annoncer ton amour, ta bonté, Seigneur. Mais une parole qui fait plus que nous annoncer, une parole qui peut nous transformer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, tu veux faire retentir ta voix dans le cœur de l'homme. J'ai prié. Et tous ceux qui aiment le Seigneur disent Amen. Si vous le voulez bien, sans plus tarder, nous allons plonger dans les Écritures. Si vous n'avez pas de Bible, le texte apparaît à l'écran. Nous allons parler d'un homme qui s'appelle Élie. Nous retournons, pour ceux qui sont avec nous, peut-être pour les premières fois, ou ceux qui s'approchent de Dieu. Il y a plusieurs personnes ici à l'Église qui sont issues de d'autres milieux, peut-être un peu religieux, de d'autres arrière-plans, mais qui s'approchent de Dieu. Et nous voulons penser à eux ce matin. Nous voulons prendre un temps pour vraiment mettre en contexte, pour qu'ils puissent comprendre où on s'en va ce matin. Nous retournons des centaines d'années avant Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, dans le royaume d'Israël, alors qu'Israël est loin de Dieu. Il y a un homme qui s'appelle Élie. C'est un serviteur de Dieu. Il aime Dieu. Mais, comme n'importe qui, si c'est arrivé à un homme, et comme Élie qui était d'une grande intégrité, ça peut arriver à n'importe qui, Élie a eu un moment de découragement. Nous ne allons pas taper sur lui ce matin, nous n'allons pas prêcher un évangile d'utopie qui dit qu'un serviteur de Dieu ne se découragera jamais. Nous n'allons pas faire le procès d'Élie ce matin, nous allons regarder à Dieu. Dieu a une réponse pour celui ou celle qui est ici ce matin, qui est découragé, qui est fatigué. Et Élie est dans un grand découragement. Il a un serviteur, il a une équipe, il y a des gens autour de lui. Il va même repousser son aide. Il va aller au désert. Le mot désert dans l'hébreu signifie solitude. Souvenez-vous de ce mot maintenant parce qu'il va revenir un peu plus tard. Et la Bible dit, il y laissa son serviteur, il alla dans le désert. Il est seul et il se met en chemin vers une vie de solitude, très dangereux. Il s'assit sous un arbre et il demande la mort. Il est tellement découragé qu'il veut mourir en disant, c'est assez. Mais Élie, même dans son découragement, est soumis à Dieu parce qu'il ne se donne pas la mort. Il sait qu'il n'a pas le droit de se donner la mort. Il peut la demander, il peut être découragé, mais il ne va pas se la donner. Il n'est pas rebelle à Dieu. Il ne touche pas à ça. Il va dire, c'est assez. Et j'ai mis que les textes essentiels ce matin. La Bible dit, il se coucha, il s'endormit sous cet arbre jeûnait. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, but, puis se recoucha. C'est fascinant de voir que Dieu l'a laissé dormir. Vous savez, c'est bon de dormir. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez dormir. Pas maintenant, mais plus tard. Dieu a compris que son serviteur était fatigué. Il l'a laissé dormir. Et puis, il l'a réveillé une autre fois. Il lui dit, lève-toi et mange. Il regarda. Et puis, après, ça dit, il mangea, bu, se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Il l'a réveillé. Il y a même une traduction qui dit, il l'éveilla. Il éveilla Élie, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha jusqu'à la montagne de Dieu. Nous allons voir ensemble ce matin que nous sommes appelés premièrement à avoir à cœur d'entendre sa voix, premièrement. Mais deuxièmement, nous sommes appelés à entendre sa voix dans nos cœurs. Premièrement, nous sommes appelés à avoir à cœur d'entendre sa voix. Élie est dans un profond découragement et Dieu va envoyer, pas n'importe qui, pas un autre homme, Dieu va envoyer littéralement un ange qui va faire quelque chose de très particulier. Et suivez-moi bien ce matin. Mais à travers les gestes que l'ange va poser, Dieu va littéralement annoncer les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. À travers cet ange-là, Dieu va prophétiser, il va annoncer comment il travaille aujourd'hui en 2011. Comment est-ce que Dieu aide l'homme aujourd'hui? Il envoie un ange qui vient, qui va lui donner, souvenez-vous de ceci, il va premièrement l'éveiller, il va lui donner deuxièmement du pain, il va lui donner de l'eau et il va lui pointer la montagne de Dieu. Le mot ange signifie littéralement un messager. Quelqu'un qui va vers quelqu'un pour l'encourager, pour l'aider et que ça vient vraiment de la part de Dieu, c'est un messager. Un mari qui se tourne vers sa femme et qui l'encourage à se confier en Dieu, il est un messager. Une maman qui inculque les valeurs de la Bible à son enfant, elle est une messagère. Ça se dit messagère en France? Oui, merci. Mon français est très limité. Hein? Un messager, c'est un ange. Maintenant, ici, c'est un ange surnaturel, nous le croyons. Mais ce qui nous touche vraiment, c'est qu'alors que cet ange, il n'y a pas plus pur qu'un ange, il n'y a pas plus glorieux qu'un ange comme serviteur de Dieu. Il n'y a pas plus obéissant et plus parfaitement capable d'entendre la voix du Maître et d'obéir dans une intégrité parfaite qu'un ange descendu du ciel. Mais notez bien ceci ce matin, je veux souligner ceci. L'ange ne va pas renvoyer Élie vers sa maison, vers ses problèmes, vers ses défis. L'ange ne lui donnera pas la solution. L'ange ne lui donnera pas la parole de Dieu. L'ange ne lui donnera pas une réponse. Et il y a des moments dans la Bible où ça a été ainsi. Mais ici, c'est différent. Dieu voulait montrer que dans le Nouveau Testament, en 2011, à partir de Jésus-Christ, à partir de la venue de l'Église qui apparaît dans les Actes des Apôtres, Dieu avait prévu, il avait prophétisé qu'il allait travailler d'une autre façon. Un vrai messager de Dieu, écoutez bien ceci ce matin, cette citation, le vrai messager de Dieu repousse délicatement et en toute convenance le bras qui s'appuie sur lui. Mais il soutient et il accompagne le cœur qui veut aller à Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu ne parle plus comme dans l'Ancien Testament. Oui, parfois, il peut y avoir pour des moments très, très importants, Dieu peut parler d'une façon vraiment spectaculaire. Mais écoutez-moi bien. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, anciennement, Dieu parlait par les prophètes. Historiquement, le christianisme a été taché de leaders, de responsables, de dirigeants qui ont inculqué, qui ont voulu priver le peuple, et la France et la francophonie, et même partout dans le monde, on a connu une religion qui a privé le peuple de la Bible. Nous, on va la lire, nous, on va l'étudier, nous, on va vous dire, mais vous ne pouvez pas avoir accès direct. Il faut surtout pas que vous lisiez la Bible. Des grandes religions aujourd'hui, qui ont une ampleur mondiale, font encore la même chose. J'écoutais le témoignage d'un homme qui a été dans une des plus grandes écoles, dans une certaine religion. Je suis pas là pour attaquer les religions ce matin, donc je ne citerai pas cette croyance. C'est pas ça le but. Mais on a assis ce jeune dans une classe qui était brillante et on lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de réfléchir. La plus grande école au monde de cette religion. Et tout ce que tu vas faire, tu vas accepter ce qu'on va dire, mais il faut surtout pas que tu réfléchisses. J'aimerais vous dire ceci. Nous vivons dans des jours différents. Aujourd'hui, nous vivons dans des jours où Dieu veut parler directement à ses enfants, où Dieu veut faire retentir sa voix dans nos cœurs directement. Malheureusement, même encore aujourd'hui, dans certains milieux, dans certaines églises, c'est pas juste une question historique, c'est une question parfois de pratique. Il y a parfois des serviteurs de Dieu, il peut y avoir parfois des messagers, ça peut être une mère de famille, comme ça peut être littéralement un pasteur, qui ne croit pas, parce que cette personne n'accorde pas une grande importance à la voix de Dieu dans son cœur, ne veut pas l'inculquer et ne veut pas que les gens autour d'elle entendent la voix de Dieu. Certains messagers de Dieu, même avec de bons motifs, mais ils ont peur que le peuple ou que quelqu'un parte dans un mauvais sens. Et au lieu d'inculquer à cette personne, tu peux entendre Dieu, tu peux toi aussi marcher avec Dieu. Amène les gens vers eux, je vais te dire, je vais te montrer. Et parfois, c'est avec de très, très bons motifs. Parce que parfois, en tant que berger, on peut avoir peur que la personne prenne des mauvaises décisions pour sa vie. Alors on lui dit, moi je vais te dire, fais ci, fais ça, comme ci, comme ça, voilà. Je vais te donner une vraie recette concrète. Fais ça et ça va marcher, plutôt que d'enseigner les gens à aller vers Dieu. À marcher avec Dieu. Certains conseillers, certains messagers, ils trouvent une grande valorisation personnelle à dire aux autres comment vivre leur vie. C'est valorisant d'avoir la bonne recette dans sa main, mais de pas la communiquer. Combien d'entre vous avez déjà été invité à manger chez quelqu'un et le plat était succulent, mais la dame, elle voulait pas vous donner sa recette? On n'est pas appelé à cacher la recette. On est appelé à donner la recette et dire, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux marcher avec Dieu. Je vais même aller plus loin. Il y en a même parfois dans certains milieux qui ont mis Dieu de côté et se sont fait la voix de Dieu. Et disent à droite et à gauche, ainsi parle l'Éternel. Quelle grave déclaration. J'étais dans une église sur Paris il y a longtemps. Et une jeune fille est venue me voir après une réunion, en larmes. Elle m'a dit, « Pasteur, je suis troublé parce qu'un homme m'a dit qu'il était un prophète. » Et il m'a dit, « Dieu t'appelle à faire tes bagages, à partir dans ce pays là-bas. » Elle a dit, « Mais moi, il m'annonçait quelque chose de tout à fait nouveau, j'ai jamais entendu ça. » Et elle pleurait devant moi, elle dit, « Là, il faut que je fasse mes bagages, il faut que je parte. » J'ai dit, « Non, fais pas tes bagages, ne pars pas. Dieu parle pas comme ça. » Je vais vous dire ceci ce matin. Il y a des gens qui veulent ça. Il y a un peuple, il y a une clientèle, il y a un auditoire. Il y a des gens, pour eux, ça leur convient. Je n'ai pas besoin de me lever. Je n'ai pas besoin de marcher à la montagne de Dieu. La montagne va venir à moi. Le messager va me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma vie. Je n'ai pas besoin d'éteindre la télé. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la Bible. Je n'ai pas besoin de vivre une vraie vie chrétienne au quotidien, à la maison. Je peux faire tout ce que je veux la semaine. Et je vais aller dans une réunion où quelqu'un va me dire ce qu'il faut. J'ai besoin de mettre 1 euro dans une machine, puis la petite canette, la petite boîte de Coca-Cola va sortir en bas. Et parfois, le messager devient comme un distributeur. Je vais te donner ce qu'il faut, mais donne-moi ce que je veux entendre. Il y a des gens qui veulent ça. Dieu dit, anciennement, la Bible dit, anciennement, Dieu parlait par les prophètes. Aujourd'hui, il parle par son Fils. Je vais en parler dans un instant. Qu'est-ce que Dieu veut dire par ça? Dieu veut dire, anciennement, il y avait un intermédiaire dans l'Ancien Testament. Mais c'était annonciateur. Et ici, dans le récit que nous voyons ensemble, Dieu montre clairement que dans les jours que nous vivons, Dieu désire profondément, personnellement, parler à chaque homme et à chaque femme sur cette planète. Dieu aime tous les hommes. Ce n'est pas une question d'élitisme que certains peuvent entendre la voix de Dieu. Le peuple est appelé à marcher avec Dieu. Chaque mère de famille, Dieu a une parole, Dieu a un conseil, Dieu peut l'aider. Chaque père de famille, chaque jeune, Dieu sait exactement. Dieu a une opinion, mon frère, ma sœur. Dieu aimerait se prononcer. Dieu aimerait être consulté. Dieu veut parler et Dieu parle. La Bible dit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais Dieu parle. Voyez-vous, j'aime bien ce dicton de Socrate qui dit ceci. Si tu pêches un poisson, tu nourris pour un jour. C'est facile de donner la réponse toute faite à tout le monde tout le temps. C'est rassurant, mais nous n'allons pas développer une autonomie spirituelle. Si tu pêches un poisson, tu nourris pour un jour, mais si tu montres à pêcher, tu nourris pour toujours. Ce que l'ange fait avec Élie, il aurait pu lui donner la parole de Dieu, mais Dieu dit non, tu ne parles pas. Tu vas le conduire, tu vas le fortifier, et là je vais vous montrer maintenant. Tu vas lui pointer la montagne de Dieu, mais Dieu dit, c'est moi qui vais lui parler. Et nous vivons dans des temps ainsi où le vrai messager de Dieu, l'homme de Dieu, quand je parle d'un homme de Dieu, ça peut être littéralement un père de famille. Voyez-vous, le vrai messager, il vient et il va surtout éveiller un homme et une femme dans sa vie à s'approcher de Dieu. Je connais des chrétiens qui ont éveillé un collègue au travail à l'existence de Dieu. Et tout à coup, après l'avoir révélé cette personne à l'existence de Dieu, a éveillé cette personne à la pensée, mais toi aussi, Dieu peut te parler. Toi aussi, tu peux t'approcher de Dieu. Toi aussi, tu peux consulter Dieu. Quel témoignage! Il y a quelques semaines de ça, j'étais dans une famille reçue pour un repas un soir avec ma femme et mes enfants. Toute la famille, des Iraniens. Des Iraniens qui ont évolué dans une autre croyance, complètement avec d'autres conceptions de Dieu. Et cette jeune fille, dans ses études, criait à Dieu. Et c'est inexplicable, parce que la voix de Dieu ne s'explique pas. Comment peux-tu expliquer, pasteur Fabien, quand ta femme t'appelle sur ton portable? Tu ne peux pas dire, ben oui, la voix de ma femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne s'explique pas. Quand ma femme m'appelle sur mon portable, je sais que c'est elle. Et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et cette jeune fille, le Seigneur, cette jeune fille, quelqu'un lui a dit un jour dans sa vie, toi aussi, tu peux t'approcher de Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te parler. Dieu veut te diriger. Même dans tes études. Troublée par cette pensée pendant des jours, elle a résisté. Mais un jour, dans son salon, seule assise à la maison, a commencé à invoquer le nom de Dieu. Et la Bible dit depuis la Genèse, quand un homme invoque le nom de Dieu, Dieu vient. Parce que Dieu est vivant. Et Dieu s'est manifesté à elle. Dieu a transformé sa vie. Dieu a relevé sa vie, a guéri sa vie. Et après, sa sœur est venue à Christ. Après, sa mère est venue à Christ. Et son père, qui est encore en Iran, est venu à Christ. Et après, ils ont pris l'avion, ils ont été en Iran. Elle m'a dit, j'ai vu mon tonton pleurer à la table en découvrant l'amour de Jésus pour sa vie. Ça, c'est d'être un messager. Ça, c'est un vrai messager. Le vrai messager, il lutte avec les doutes. Le vrai messager, il cherche pas. Mais comment je pourrais lui dire comment vivre sa vie? Non! Le vrai messager, il lutte avec les doutes. Il prend le croyant, il prend le chrétien. La mère prend son enfant, et puis le pasteur prend sa congrégation, puis lui dit, toi aussi, tu peux marcher avec Dieu. Toi aussi, tu peux entendre la voix de Dieu. Toi aussi, le Seigneur t'aime. Vous savez ce qu'il fait? Il fait trois choses. Quatre choses même. Premièrement, il éveille l'ange de Dieu, inspiré de Dieu, envoyé de Dieu, va faire une œuvre qui est prophétique. C'est ça le Nouveau Testament. Il va éveiller un homme découragé à aller vers Dieu. C'est trop facile. Et écoutez-moi bien ce matin, c'est vraiment pas évident de prêcher ça pour moi. Parce que Élie est dans un tel découragement, il désire la mort. On pourrait dire, mais Élie est tellement découragé, donne-lui une parole d'encouragement. Dis-lui une réponse. Et l'ange, je suis certain que peut-être l'ange connaissait la pensée de Dieu. Je suis certain que l'ange, peut-être, par compassion, regardait Élie et avait envie de lui dire ce que Dieu allait lui dire sur la montagne. Mais Dieu dit, tu ne parles pas. Tu l'envoies vers moi. Même s'il est découragé, même s'il mérite la mort, fais-lui surtout pas une petite recette. 3, 4, 5 trucs à faire et puis tout à coup, tu ne seras plus découragé. Non, non, non. Envoie-le vers moi. Et après, la Bible dit, il va lui donner un pain. Vous savez, Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Ce livre est appelé le pain, une nourriture. Une vraie parole de Dieu va fortifier quelqu'un qui est découragé. Et là, dans cette fortification, cette personne va aller vers Dieu. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? Il dit, « Nous luttons contre toute forteresse qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Christ. » Paul dit, « Je lutte contre toute mentalité qui empêcherait les gens à aller connaître Jésus, personnellement. Je renverse des forteresses. » C'est ça que l'ange a fait. Sa parole, son pain et son eau, même la Bible est appelée l'eau. La Bible dit, Paul dit que Jésus, par sa parole, nettoie le chrétien. Ça veut dire quoi, nettoie le chrétien? C'est pas qu'il prend un bain dans la Bible. C'est un sens spirituel. C'est qu'une image qui signifie que Dieu peut venir dans notre vie et à travers ce livre, qu'est-ce qu'il nettoie? Nos fausses conceptions de qui est Dieu. Fausse mentalité de qui est Dieu. Peut-être que pendant des années, on vous a dit que Dieu était en colère contre vous. Peut-être que pendant des années, on vous a dit que Dieu était loin et distant dans le ciel. Peut-être que pendant des années, on vous a parlé du courroux, de la colère de Dieu. Mais la Bible dit que quand Jésus-Christ est arrivé, il a révélé le Père qui est dans le ciel. Et la Bible dit, anciennement, Dieu parlait par un intermédiaire. Aujourd'hui, il parle par Jésus. Et partout à travers l'Évangile, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le pardon de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Les standards de Dieu n'ont pas diminué, la barre n'est pas plus basse, mais Dieu dit, je vais te porter, je vais t'amener à sauter par-dessus, je vais t'aider, je vais être avec toi. C'est ça le vrai messager de Dieu. Il donne un pain qui fortifie, il vient nettoyer les fausses mentalités, mais surtout, il lutte avec les doutes. J'aimerais vous dire ceci, il vient déverrouiller la révélation qui a été parfois caché, qui a été parfois cadenassé, fermé dans une voûte, priver les gens qu'eux aussi peuvent entendre la voix de Dieu. De toutes sortes de façons, nous privons le peuple. Le vrai messager, il rouvre le coffre-fort et il dit, Dieu peut te parler. Il fait sortir la vraie révélation. Laissez-moi vous montrer quelques versets sur cette révélation. Prophétiser pour nos jours à nous. Annoncer d'avance dans la Bible depuis tellement longtemps. Regardez. Ça apparaît à l'écran. Isaïe 35, premier verset, deuxième verset, nous dit ceci. La solitude s'égaiera. Lisez pas la suite, restez ici. Regardez-moi. La solitude s'égaiera. De quoi est-ce que j'ai parlé tout à l'heure? Solitude. Élie repousse son serviteur. Ça représente un homme qui s'isole ou une femme qui s'isole. Et il va dans le désert. Le désert signifie solitude. C'est incroyable. Il n'y a jamais eu autant de population au mètre carré sur la région parisienne. Mais il y a un mois de cela, France 2 faisait un documentaire spécial sur la solitude. Ils ont été suivre un homme de 45 ans dans son appartement seul, qui ouvre les volets le soir, puis qui regardait la ville de Paris, puis il disait sur France 2, il faut vraiment être désespéré pour le dire à la télé, et je suis complètement seul, dans une telle solitude. Mais regardez la promesse de Dieu. La solitude s'égaiera. Ça veut dire quelque chose qui vient d'arriver. Elle tressaillera de joie. Là, je vais juste à l'essentiel, ça apparaît à l'écran, l'essentiel apparaît à l'écran. Avec des chants. Si vous avez entendu des chants de joie ce matin, c'est parce qu'il y a des gens ici qui étaient dans leur solitude et le Seigneur est venu égayer leur vie. Amen. Il y a des gens qui chantent sur l'estrade. Vous connaissez pas leur vie personnelle. Je veux pas la révéler. Je la connais peu moi-même. Mais qui ont des défis. Ils ont des souffrances. Ils ont parfois eu des mauvaises nouvelles dans leur vie. Mais ils ont été à la montagne de Dieu. Et le Seigneur a mis un chant de joie dans leur cœur. Ils verront la gloire de Dieu. Regardez ce que ça dit. Voilà pourquoi qu'il y a des chants d'allégresse. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Il y a même une version qui dit « ils verront Dieu ». Ah oui, mais au ciel, on va voir Dieu. Oui, physiquement. Oui, peut-être dans sa pleine révélation. Mais écoutez-moi bien. Avec notre cœur, nous pouvons voir Dieu. Dieu est esprit, il est invisible physiquement. Mais Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, à ouvrir des nouveaux yeux que l'apôtre Paul a dit, a appelé, littéralement, vous pouvez le lire dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, Paul a parlé des yeux du cœur qui peuvent s'ouvrir. Nous, on avait un artiste au Québec, pas du tout chrétien, qui avait un chant qui disait « avec les yeux du cœur ». C'est-à-dire, même les non-croyants savent qu'il y a les yeux du cœur. Et avant de mourir, cet homme est venu à Jésus, a donné son cœur à Dieu, cet artiste. Fortifier les mains languissantes. Regardez-moi un instant, là. C'est pas ce que l'ange fait avec Élie? Fortifier les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Pourquoi on affermit les genoux? Pour qu'ils marchent. Affermissez ces genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Regardez-moi ici un instant. Le vrai messager, vous savez ce qu'il fait? Il fortifie les genoux des gens, puis dit, marche à la montagne. Voici ton Dieu. Dieu a une parole pour toi. Dieu peut te diriger. Dieu est encore vivant aujourd'hui. Celui qui doit s'instruire ne se dérobera plus, la Bible dit. Ça, c'est Dieu qui se dérobera plus. Tes yeux le verront, les yeux de ton cœur. Tes oreilles entendront la voix derrière toi qui dira, voici le chemin, prenez-le. Psaume 32, 8, Dieu parle et dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Mon frère, ma sœur, mais quel réconfort dans cette jungle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Quel réconfort alors qu'on vit dans un monde où c'est la loi du plus fort. Quel réconfort où les gens partout autour de nous sont livrés à eux-mêmes dans une jungle. Dieu dit, si tu savais à quel point je t'aime, si tu savais à quel point j'ai envie de marcher avec toi, je peux marcher avec toi, j'ai un avenir pour toi, même si on annonce que le prix du blé va augmenter de 300% d'ici à l'été, Dieu dit, j'ai pas dit mon dernier mot. Je peux prendre soin de mes enfants. La Bible dit, David a dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Dieu prend soin de ses enfants, mais Dieu a une parole pour ses enfants. C'est ça qui fait l'homme de Dieu. C'est ça qu'une mère de famille est appelée à faire. C'est ça qu'un collègue est appelé à faire envers les gens autour de lui. Déverrouiller cette pensée. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix et me suivent. Il y a plusieurs années, un homme a vu sa fille s'éloigner de Dieu. Et pas seulement s'éloigner de Dieu, mais s'auto-détruire, se faire très, très, très mal. Et cet homme a vu sa fille parfois rentrer complètement ivre morte à la maison, tomber dans les escaliers, avec une rébellion, une violence, une méchanceté, une arrogance. Alors que la maman sortait de l'hôpital pour une grande opération qu'elle avait subie, sa fille fumait dehors, se foutait d'elle complètement. Et cet homme, au lieu de sombrer dans la dépression, s'est tourné vers Dieu. Tous les matins, il répandait son cœur vers Dieu. Il se confiait en Dieu. Un père de famille, c'est très, très simple. Un homme qui, tous les matins, prenait son petit camion, comme il y a toutes sortes d'ouvriers qui le font en France aujourd'hui, prennent leur petit camion blanc et puis ils se rendent sur un chantier. Il faisait ça tous les jours. Mais avant d'y aller, il se mettait à genoux dans son sous-sol et priait Dieu pour sa fille. Il a vécu des choses incroyables. Il raconte qu'un jour, alors qu'il était en train de prier, un soir, sa fille était sortie. Puis il pleurait pour sa fille. Voyez-vous, il y a des hommes qui sont fatalistes. Leurs enfants s'éloignent de Dieu, leurs enfants détruisent leur vie. Ils sont fatalistes. Bon, il y a des chrétiens, je m'excuse, mais je vais dire la vérité. Il y a des chrétiens qui, pendant que leurs enfants s'éloignent de Dieu, eux sont devant la télé. Ou en train de parler de qui, de n'importe quoi. Mais lui s'est mis à genoux. Il m'a raconté, il m'a dit, Christian, si tu savais combien de fois il y a une petite voix qui m'a parlé. À un moment donné, il y a une voix qui m'a dit « Lève-toi, va la chercher, elle est dans un parc, elle est en danger. » Et sur quatre villes, le Seigneur lui a dit « Lequel parc ?» Puis il est débarqué, le papa est débarqué dans le parc, il a pris sa fille, presque ivre, et puis des hommes autour d'elle, comme des prédateurs. Puis il est débarqué là, il a dit « Vous laissez ma fille. » Puis là, elle, « laisse-moi avec eux. » Non, tu rentres à la maison. À un moment donné, il a fracassé une porte d'appartement.
Puis je dis, tu as fait comment pour trouver quelle adresse? Il dit, il y a une voix qui me l'a dit. Ah, oh, je dis, là, t'es mystique. Non. J'étais à la maison et le Seigneur m'a rappelé qu'elle avait été à tel endroit où il y a des appartements. Vas-y, je vais te montrer. Et je montais les marches et je commençais à entendre le bruit de la fête. Et quand je suis arrivé, ils étaient en train de la saouler. Ils voulaient l'abuser, ils voulaient lui faire des choses mal. Et cet homme est venu, il a fracassé la porte, il est rentré, il a pris sa fille. Il a dit, vous touchez rien, sinon j'appelle la police. Et puis, il est parti. Cet homme, c'est mon père. Moi, j'ai grandi dans une famille avec un homme ordinaire, mais qui croyait que Dieu peut parler. J'ai grandi dans une famille qui m'a inculqué des valeurs exceptionnelles, où on avait à cœur d'entendre la voix de Dieu. Pas seulement une lecture intellectuelle de la Bible, pas seulement entendre ce que le pasteur veut dire le dimanche matin, entendre la voix de Dieu au quotidien. Je termine avec ceci maintenant. Nous sommes appelés à avoir à cœur d'entendre la voix de Dieu, entendre sa voix, mais en terminant, nous sommes appelés à entendre sa voix dans nos cœurs. Regardez avec moi maintenant le texte qui apparaît à l'écran. L'Éternel dit, sors. Maintenant, restez avec moi. Élie se lève. Il va marcher jusqu'à la montagne de Dieu. C'est touchant parce que l'ange ne lui a pas caché que ce serait difficile. On aime bien avoir un message facile. On aime bien se faire dire que les choses vont arriver rapidement. Mais le vrai messager qui est envoyé du ciel, lui, il dit la vérité. Il dit, mange, fortifie-toi, car le chemin sera long. Un vrai messager ne va pas vous cacher la vérité. Il ne va pas vous dire que la vie est toujours facile. Il ne va pas vous dire, crois en Dieu, tout va devenir parfait. Il dit la vérité. Le vrai messager dit, tu es appelé à entendre la voix de Dieu, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut, mon frère, ma soeur, il faut démystifier la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Et tous les pasteurs de cette église peuvent vous dire, c'est même pas facile pour nous parfois entendre la voix de Dieu. Parfois, on n'est pas certain que Dieu nous a parlé. Mais Dieu nous aime. Et Dieu va nous faire grandir de plus en plus dans notre foi. Il va développer une oreille en nous pour qu'on puisse entendre sa voix. Mais l'ange lui dit la vérité. Et Élie va se lever. Et sur cette parole qui l'a fortifié, ce pain, cette eau qui l'a fortifié, il marche où? Il ne retourne pas à sa vie. Il va à la montagne de Dieu. Il a besoin de consulter Dieu. Il a besoin que Dieu lui parle et il y va avec une confiance d'un enfant. Dieu est vivant et il va me parler. Maintenant, il ne va pas n'importe où, Élie. Il va au Sinaï. Il va à l'Horeb. Et il va aller là où Moïse a reçu la loi. Pourquoi? On va voir ensemble en terminant aujourd'hui. Regardez ce que le texte dit. L'Éternel dit, sors. Maintenant, il est sur la montagne. Et Dieu lui dit, sors, tiens-toi dans la montagne. Il est dans une caverne, il sort. Tiens-toi sur la montagne devant Dieu. Et voici, l'Éternel passa devant lui. Surprenant. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, ce fut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, écoutez bien ceci, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Quelle image! Élie est allé à la même montagne que Moïse. Plusieurs théologiens sont convaincus que Élie était dans la même caverne, dans le même creux du rocher, si vous connaissez Exode 34, où Moïse a été. Pourquoi? Élie voulait revivre ce que d'autres avaient vécu. Élie voulait la montagne de Dieu. Il voulait le Sinaï. Il voulait le vrai Dieu. Il ne voulait pas une religion. Il voulait la vraie affaire, la vraie vérité. Et regardez bien ce que Dieu va faire. Dieu va faire trembler la montagne. Il est écrit que le Sinaï a tremblé quand Moïse était là. Mais Dieu, cette fois-ci, n'était pas dans le tremblement de terre. Dieu a envoyé une tempête. La Bible dit que quand le peuple regardait le Sinaï avec Moïse, le Sinaï était comme une tempête. Mais cette fois-ci, Dieu n'est pas dans le coup. Et Dieu va envoyer un feu. Si vous connaissez les Écritures, c'est écrit qu'au jour de Moïse, le Sinaï était embrasé de feu. Mais Dieu n'était pas dans le coup. Dieu n'était pas là. Et puis tout à coup, quel fait surprenant, tout nouveau, le Créateur de l'univers va venir parler avec un murmure. Ici, dans l'hébreu, ça dit le son, un son subtil, une voix subtile et pas facile à entendre. La plus grande autorité de l'univers choisit la plus petite voix. Pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer encore que dans nos jours à nous, Dieu veut parler dans le cœur. Dieu veut que nous arrêtions de chercher à droite et à gauche ce qui est spectaculaire, ce qui tape à l'œil. Oui, parfois, il peut y avoir des moments très importants dans nos vies où Dieu va parler d'une façon fracassante, mais dans notre quotidien, Dieu veut parler dans notre cœur. La Bible dit, anciennement, Dieu parlait par les prophètes, aujourd'hui, il parle par son Fils. Écoutez bien ceci. Il parle par son Fils qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Je l'explique, c'est très simple. Ça veut dire littéralement, Dieu parlait avec un intermédiaire avant. Aujourd'hui, il parle sans intermédiaire. Il n'y a plus de saint qui peut écouter vos prières pour qu'elles montent vers Dieu. C'est fini ça. Il n'y a plus de bonne œuvre. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est fini. Il ne faut plus mettre personne devant Dieu. Dieu dit, vous enlevez tous les intermédiaires, maintenant c'est moi. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu dit, maintenant je vais parler directement. Comment? Très, très simple. Mon cher ami, Dieu parle par sa parole. C'est plus qu'un livre. C'est plus qu'un écrit. C'est une parole. Si tu ouvres ton cœur quand tu lis ce livre, je te garantis une chose. Il ne va pas détruire ta vie. Il ne va pas t'amener à prendre des mauvaises décisions. Il ne va pas t'amener dans un déséquilibre mental. Il ne va pas t'amener à gérer mal ta vie. Il y a des principes extraordinaires dans ce livre. Mais il y a encore plus que des principes. Dieu peut prendre un texte et faire retentir sa voix. Ça ne sera pas spectaculaire, ça ne sera pas fracassant, mais il y a une voix qui va parler à ton cœur. Combien d'entre nous, à un moment donné, on a entendu plus qu'un verset, on a entendu une voix. Jérémie, un jour, va dire au roi, « Écoute la voix de Dieu dans ce que je te dis. » Ce n'est pas de la prétention. Il était tellement humble, Jérémie. Jérémie dit au roi, il dit, « N'entends-tu pas? Ce n'est pas juste un homme qui te parle, c'est Dieu. » Jérémie parlait pour Dieu, mais en même temps, il entendait Dieu derrière. Et puis, à un moment donné, Jérémie dit au roi, mais t'entends pas cette voix dans ton cœur? T'entends pas que c'est pas juste un homme qui te parle? N'entends-tu pas que c'est Dieu derrière qui essaie de te parler pour ton bien? Parce qu'il est vivant. Dans les jours que nous vivons, Dieu veut parler dans nos cœurs, de toutes sortes de façons. Regardez bien ceci. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme qui marche avec Dieu? C'est quelqu'un qui se distingue par la valeur qu'il accorde à cette voix subtile qui vivifie la Bible et non par une révélation exclusive ou exceptionnelle. Dieu ne parle plus de façon exclusive ou exceptionnelle. Dieu parle dans notre cœur. Mais cette voix, si petite soit-elle, est la plus puissante de tout. Cette voix transforme des vies. Cette voix rassure dans la tempête. Cette voix donne une paix qu'aucun homme peut donner. Vous pouvez lire la Bible sans ouvrir votre cœur, vous n'aurez jamais la paix. Mais vous pouvez tourner votre cœur et dire, « Dieu, je sais que tu peux me parler. » À travers un psaume, à travers un texte, le Seigneur peut faire retentir sa voix. Et cette voix amène une assurance. Dieu ne dit pas toujours comment il va s'y prendre, mais il dit toujours qu'il va prendre soin de nous, qu'il va être là pour chacun d'entre nous. Et cette voix vient et elle parle à notre cœur. Maintenant, concrètement, alors que je conclue, comment pouvons-nous entendre cette voix qui est si puissante? Regardez bien comment l'histoire finit avec Élie. C'est exceptionnel. Rien de spectaculaire. Élie entend une petite voix, un murmure qui lui parle. Voyez-vous, Dieu ne demandera pas à Élie de repartir. C'est un grand mystère, ça. Parce qu'Élie est tellement découragé, il est tellement faible, il veut mourir. Et Dieu va lui donner du travail à faire. Mais Seigneur, si on ne connaît pas Dieu, on pourrait croire que Dieu n'a pas de compassion, qu'il veut juste le mettre comme un bourreau au travail. Mais il y a une chose qu'Élie connaît, c'est que quand Dieu s'approche d'un homme ou d'une femme, dans la douceur de son amour, il fortifie son cœur. Il met une force. Un autre serviteur de Dieu qui s'appelait Daniel était faible devant Dieu, faible, dans une faiblesse incroyable. Et Dieu lui dit, « Fortifie-toi. » Et Daniel va répondre, il dit, « Mais tu m'as fortifié. En me disant, fortifie-toi, tu m'as fortifié. Si c'est Dieu qui te dit, lève-toi, crois-moi, tu vas te lever. Si c'est Dieu qui te dit de vivre dans la sainteté, crois-moi, tu vas vivre dans la sainteté. Parce que quand Dieu parle, il a une puissance de création. Hey, come on! Sa voix a créé l'univers. Et il ne pourra pas prendre soin de vous. Mon frère, écoutez-moi. C'est incroyable. La Bible dit qu'il porte l'univers au complet par la puissance de sa parole. Et il ne pourrait pas porter votre vie. Toutes les planètes, tous les systèmes interstellaires du cosmos sont dans un équilibre parfait. La nature, avant que les hommes la bousillent, elle était parfaite. Dieu avait créé tout dans un ordre, un équilibre extraordinaire. Croyez-vous que Dieu a oublié un épi de blé un jour? Oh, il y a une semence, j'ai oublié de mettre la vie dedans. Faudra, oh là là là, il y a un ange, oh non, j'ai oublié. Mais non, Dieu n'oublie rien. Tous les arbres sont vivants, poussent. Là, Jésus dit, même les oiseaux, Dieu dit même, je prends soin de chaque petit oiseau. Et nous, on est là, et on garde notre petite vie. Et on doute de l'existence parfois de Dieu, ou on doute que Dieu peut nous aider. Ah, oh, mais pasteur, vous n'êtes pas à ma place, hein? Moi, je travaille, je suis une femme monoparentale, je suis seul. Tous les matins, je dois sauter sur le train. Je vais travailler à la Défense. Je rentre le soir, mes enfants sont là. Je dois les prendre, faire le souper, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que combien Dieu pourrait nous aider dans des choses concrètes si on avait la foi. Et alors que Dieu s'approche d'Élie, il va tellement le fortifier qu'il va lui donner de vaincre des royaumes. Il va lui donner une parole pour vaincre des royaumes. J'aimerais vous dire ceci. Quand on devient chrétien, on peut rester français, on peut rester canadien, mais avant tout, on est chrétien. Et avant d'être français, on est chrétien. Et quelle paix de dire, je peux me lever demain matin et je peux vaincre la France. On l'aime, la France. Je ne dis pas d'aller sortir un gun, aller tuer quelqu'un. Comprenez-moi bien. Mais vaincre vos soucis, vaincre vos angoisses, l'économie, tout ça, toute l'actualité pèse sur les épaules des Français. Mais à la montagne de Dieu, tu vas vaincre tout ça. Dieu veut te parler. Dieu a une parole pour toi. Quelle image! Comment maintenant, en terminant très, très rapidement, oh, l'heure est passée. Très rapidement, comment Dieu va parler? Dieu va parler premièrement lorsque nous allons taire les autres voix. Dieu parle lorsqu'il est le seul à avoir le droit de parole. Comme un noble qui rentre dans une pièce, qui attend que tout le monde se taise pour parler. Dieu parle quand nous avons tué toutes les autres paroles. Dieu parle quand nous croyons qu'il est amour. J'aimerais vous dire ceci, Dieu désire plus nous parler que nous désirons l'écouter. Dieu parle lorsque c'est lui qui peut choisir le sujet. Seigneur, parle-moi de mes finances. Non, je veux te parler de ta femme. Dieu parle lorsque nous croyons qu'il se manifeste avec amour. Quand Dieu parle, il ne nourrit jamais notre égocentrisme, mais il nous attire à vivre pour lui. Et il nous attire à vivre à lui. Mon frère, ma sœur, il y a une voix, j'invite les musiciens, qui existe, qui donne la vie. Nous avons chanté un chant, j'aimerais qu'on puisse le rechanter. Le chant de Melody Green, Sauveur du monde. Si vous connaissez l'histoire de cet homme, j'avais prévu une autre histoire, mais je vais raconter cette histoire. Il y a des années, regardez-moi bien, il y a des années, un chanteur qui s'appelait Keith Green, en Amérique, était dans son petit avion avec ses enfants, c'est ça, hein? avec ses deux enfants. Et alors qu'il atterrissait, sa femme était sur la piste d'atterrissage et elle regardait son mari arriver avec son petit avion et ses deux enfants. Et tout à coup, il y a eu un problème mécanique. Et l'avion a chuté, s'est écrasé. Et son mari et ses deux enfants sont morts devant elle. Cette femme a vécu un drame que je ne peux même pas comprendre. Mais je vous dis ceci ce matin. Elle pourrait vous témoigner qu'elle est allée à la montagne de Dieu. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu l'a fortifié. Et elle a écrit ce chant. On peut mettre les paroles, s'il vous plaît, à l'écran. Sauveur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, ta joie, ta paix m'inonde. Laisse-le là. Ta joie, ta paix m'inonde. Je ne sais pas comment une femme peut dire ça. Mais une chose est certaine, la voix de Dieu est venue. Pas de façon spectaculaire, mais elle a été touchée par la voix de Dieu. Alors, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes ce matin. Dieu vous aime et Dieu veut vous parler.